Chapitre 31. Fascinant, murmura Abétik. Ce n'était pas exactement le terme que j'aurais utilisé, mais il faisait l'affaire pour le moment. Ma première réaction fut de commencer à faire le point sur notre situation par la négative. Nous n'étions plus au milieu de la jungle. Nous n'étions même plus sur un fleuve, mais sur un océan qui nous entourait de toutes parts. Ce n'était plus le jour, mais la nuit. Enfin, nous n'avions plus l'impression de couler. Le radeau se comportait différemment sur la houle régulière mais profonde qui agitait la mer. Mon regard exercé de batelier avait remarqué que si les vagues étaient un peu plus fortes quand elles se brisaient sur les côtés du radeau, le bois de gymnosperme, par contre, avait une flottabilité accrue dans ses eaux. Je me penchai à l'arrière et pris dans le creux de ma main un peu de liquide que je portais à mes lèvres. Je le recrachai aussitôt pour me rincer la bouche avec l'eau douce de ma gourde. Cet océan était encore plus salé que ceux d'Hyperion.
Waouh !
Fit Aîné entre ses lèvres. Je devinais que c'étaient les trois lunes qui suscitaient cette réaction. Elles étaient de couleur orangée, énormes, particulièrement celle du centre, qui remplissaient à elles seules, à mesure qu'elles se levaient, la moitié du ciel dans la direction que je continuais à me représenter comme l'est. Aîné se dressa pour mieux la regarder, et sa silhouette ne remplissait même pas la moitié du demi-hémisphère orangé. Je fixais la godille et allais rejoindre les deux autres à l'avant. La houle nous secouait tellement que nous devions nous tenir aux mains où la chemise blanche de l'androïde battait toujours au vent. Elle brillait d'un éclat pâle à la lueur des lunes et des étoiles. J'oubliais un instant mon point de vue de batelier pour observer le ciel avec les yeux d'un berger. Mes constellations préférées dans ma jeunesse, le cygne, le gazier, les sœurs jumelles, le vaisseau d'ensemencement et le marbre, étaient absentes ou si déformées que j'étais incapable de les reconnaître. Mais la Voie lactée était bien là. La grande avenue sinueuse de notre galaxie était visible à partir de l'horizon houleux derrière nous, jusqu'au halo entourant les lunes où elle s'estompait. Normalement, les étoiles étaient beaucoup moins brillantes lorsqu'une lune, même de type terrestre, occupait le ciel, et a fortiori trois géantes. La raison de ce phénomène extraordinaire, supposais-je, était que l'air, exempt de toute particule en suspension, ne contenait aucune source de lumière réfléchie. J'avais du mal à imaginer le spectacle que devaient représenter ici les étoiles par une nuit sans lune. Ici, mais où ? Mû par une soudaine intuition, je rapprochai mon bracelet persoque de mes lèvres pour demander « Vaisseau, vous êtes là ?» Je fus réellement surpris lorsqu'une voix fluette me répondit « Les secteurs téléchargés sont là, Chandimion. En quoi puis-je vous être utile ?» Mes deux compagnons s'arrachèrent à la contemplation de la lune géante en train de se lever pour regarder mon bracelet. « Vous n'êtes pas le vaisseau, m'étonnai-je. Je croyais que… »
« Si vous voulez savoir si vous êtes en communication directe avec le vaisseau, la réponse est non », continua la voix fluette. « Les canaux de communication ont été perdus lors du franchissement du dernier portail distance. La présente version abrégée du vaisseau reçoit cependant des signaux vidéo. »
J'avais oublié que le Persoc possédait ses propres capteurs photosensibles.
« Pourriez-vous nous dire où nous sommes ?» demandai-je.
« Un instant, je vous prie. » Si vous pouviez soulever légèrement votre bracelet, comme cela, oui, merci. Je vais faire une recherche céleste afin de procéder à une confrontation avec mes tables de coordonnées navigationnelles.
Pendant que le Persoc se livrait à ses investigations, Abétik murmura
« Je crois savoir où nous sommes, à Chandimion. »
Je pensais le savoir aussi, mais je laissais parler l'androïde.
« Ce monde me semble correspondre à la description de Mare Infinitus. »
murmura-t-il.
L'un des anciens mondes du Rett qui fait maintenant partie de la Pax.
Aînée ne disait rien. Elle contemplait toujours la grosse lune avec une expression de ravissement total. Je levai les yeux vers la sphère orange qui occupait une grande partie du ciel et me rendis compte que l'on pouvait distinguer les nuages rouilles qui se déplaçaient au-dessus de sa surface poussiéreuse. En regardant encore plus attentivement, je distinguais même un relief sous la forme de crêtes brunes qui étaient peut-être des coulées de lave volcanique. Une longue incision représentant une vallée avec ses affluents, quelques glaciers au pôle nord,
et une série de lignes convergentes correspondant probablement à des chaînes montagneuses. Cela ressemblait un peu à des holos que j'avais eu l'occasion de voir et qui montraient Mars dans le système de l'ancienne Terre avant la terraformation de cette planète. Mare Infinitus a trois lunes, nous dit Abetic, bien que en réalité ce monde soit lui-même le satellite d'une planète rocailleuse de taille quasi-jupitérienne. Je désignais la lune poussiéreuse. Un monde comme celui-là. Précisément, fit l'androïde. J'en ai vu des images. Il est inhabité, mais a fait l'objet d'une exploitation intensive par des robots à l'époque de l'hégémonie. Je pense aussi qu'il s'agit de Mare Infinitus, approuvai-je. J'ai entendu beaucoup de chasseurs venus d'outre-ciel se raconter leur partie de pêche là-bas. Ils disaient qu'il y avait en particulier des spécimens de céphalochordées à antennes qui pouvaient atteindre plus d'une centaine de mètres de long et qui étaient capables d'engloutir des bateaux de pêche entiers quand ils n'étaient pas capturés les premiers. Je gardai le silence. Nous contemplâmes tous les trois les eaux lies de vin sans dire un mot. Soudain, la voix fluette de mon persoc se fit entendre. « Ça y est, le relevé concorde parfaitement avec mes tables. Vous vous trouvez sur un satellite gravitant autour d'un monde de taille subjupitérienne, lui-même en orbite autour de l'étoile 70 Ophiuchi A, à 27,9 années-lumière d'Hyperion et 16,4082 années-lumière du système de l'ancienne Terre. Il s'agit d'un système binaire dans lequel 70 Ophiuchi A est l'étoile primaire, à 0,64 UA, et 70 Ophiuchi B, l'étoile secondaire, à 8,9 UA. Comme vous semblez avoir là-bas une atmosphère respirable et de l'eau, il me paraît raisonnable d'assumer que vous êtes actuellement sur la deuxième lune du monde binaire subjupitérien 70 Ophiuchi A', connu à l'époque hégémonienne sous le nom de Mare Infinitus. Merci, dis-je au persoc. J'ai de nouvelles coordonnées astrales gravitationnelles qui, commença le bracelet, plus tard, coupai-je en l'éteignant. Abétique ôta sa chemise d'humain improvisée et la revêtit. La brise océanique était vive et l'air plutôt glacé. Je sortis ma veste capitonnée de mon paquetage. Mes deux compagnons m'imitèrent. L'incroyable lune continuait son ascension dans un ciel étoilé tout aussi étonnant. Le tronçon Mare Infinitus du fleuve Tétis peut être considéré comme un agréable, quoique bref interlude entre deux passages à orientation plus récréative, soulignait le guide du voyageur à travers le Retz. Nous étions tous les trois assis en tailleur autour du galet foyer pour lire la page à la lueur de notre dernière lanterne portative. Elle ne servait pas à grand-chose, de toute manière, car le clair de lune diffusait presque autant de lumière que le ciel d'Hyperion partant nuageux. La coloration violette de la grande mer planétaire est due à une forme de phytoplancton en suspension dans l'eau et n'est en aucune manière le résultat de la dispersion atmosphérique grâce à laquelle le touriste peut généralement admirer de merveilleux couchers de soleil. Alors que le tronçon Mare Infinitus est très court, 5 km de voyage océanique suffisent, dans la plupart des cas, à en faire admirer les beautés aux voyageurs qui parcourent le fleuve, il comporte tout de même le célèbre aquarium océanique chez Gus avec son non moins célèbre Grill Room. Le visiteur se fera un devoir d'y déguster une tranche de géant des mers, sa soupe à l'ectapus et son excellent vin aux herbes jaunes. Il dînera sur l'une des nombreuses terrasses de la plateforme océanique, d'où il admirera l'exquis coucher de soleil de Mare Infinitus et ses levées de lune encore plus somptueux. Si cette planète est réputée pour l'immensité quasi désertique de ses étendues océaniques, il ne possède ni continent ni île, et pour l'agressivité de ses créatures marines, celle du Léviathan gueule de lampe en particulier, soyez assuré que votre bateau touristique ne quittera à aucun moment la sécurité du courant mi-littoral qui relie les deux portails et que vous serez, de plus, escorté par plusieurs navires de la sécurité de marée afin que votre bref séjour sur cette planète aquatique, après un bon dîner chez Gus, ne vous laisse que d'agréables souvenirs. Nota bene, la section Mare Infinitus de la croisière Tétis pourra être supprimée sans préavis en cas de mauvais temps ou de conditions dangereuses dues à des activités de la faune aquatique. Auquel cas, il ne vous restera plus qu'à remettre ça au cours d'une croisière ultérieure. C'était tout ce qu'il y avait dans le guide. Je le rendis à l'androïde qui éteignit la lanterne, alla se poster à l'avant du radeau et commença à scruter l'horizon avec ses amplificateurs de vision nocturne. mais les lunettes n'étaient pas vraiment nécessaires sous la clarté des trois lunes.
« Le livrement, déclarai-je. L'horizon est au moins à 25 kilomètres de nous, et je ne vois aucun portail. »
« Il a peut-être changé de place, » fit Abétique. « Ou bien coulé ?»
renchérit Aîné.
« Très drôle !»
Je remis les lunettes dans mon paquetage et allai m'asseoir à côté d'eux autour du cube de chauffage rougeoyant. Il commençait à faire très froid.
« Il est possible, » estima l'androïde, « qu'il y ait deux parcours, un court et un long, pour traverser ce monde. C'est le cas pour plusieurs segments du fleuve. »
« Pourquoi est-ce que nous tombons toujours sur les parcours les plus longs ?» demandai-je.
Nous étions en train de préparer le petit déjeuner. Nous avions tous les trois très faim après la nuit de tempête dont nous venions de sortir, mais cette collation de pain, de café et de céréales ressemblait plus à un en-cas de minuit sous les lunes. Nous nous étions vite habitués aux roulis et aux tangages de l'océan, et aucun de nous ne semblait souffrir du mal de mer. Après ma deuxième tasse de café, je me sentis beaucoup mieux à tout point de vue. Quelque chose dans la manière dont le guide décrivait ce monde avait piqué mon sens de l'absurde. Je devais admettre, cependant, que je n'aimais pas tellement cette histoire de Léviathan gueule de lampe.
« On dirait que tout ça t'amuse, »
me dit Aîné. Nous étions assis devant la tente et Abétique était à l'arrière à la godille.
« C'est vrai, »
avouai-je. « Ça m'amuse un peu.
Pourquoi »« Pourquoi ?»
J'écartai les mains.
« L'aventure, sans doute.
Tant qu'il n'arrive rien de fâcheux à personne. »
« C'était tout juste la dernière fois. »«
Ouais,
Il y a peut-être une autre raison ?»
La voix de l'enfant laissait percer une réelle curiosité.
« J'ai toujours aimé la vie en plein air, » déclarai-je sincèrement. « Camper, être loin de tout.
Il y a je ne sais quoi dans le contact avec la nature qui me met, comment dire, en harmonie avec quelque chose de plus grand. »
Je m'interrompis avant de commencer à parler comme un gnostique zen orthodoxe. La fillette se pencha vers moi pour murmurer.
« Mon père a écrit un poème sur ce thème. En fait, il s'agit du vieux poète prégirien à partir duquel le cybride de mon père a été cloné, naturellement. Mais toute sa sensibilité y était quand même. »
Avant que j'aie pu poser une question, elle poursuivit.
« Ce n'était pas un philosophe. Il était jeune, plus jeune que toi même. » Et son vocabulaire philosophique était des plus primitifs. Mais il avait essayé, dans ce poème, de recenser les différents stades qui aboutissent progressivement à la fusion totale avec l'univers. Dans une de ses lettres, il appelle cet enchaînement une sorte de thermomètre du plaisir.
J'avoue que je fus surpris et un peu désarçonné par ce petit discours. Je n'avais jamais entendu Aîné parler de manière aussi sérieuse sur quelque sujet que ce soit, avec des mots aussi abstraits. La notion de thermomètre du plaisir sonnait comme quelque chose de vaguement obscène à mes oreilles. Mais je l'écoutais attentivement tandis qu'elle poursuivait.
Papa était persuadé que le premier stade du bonheur était la camaraderie avec les sens,
murmura-t-elle tandis que Abétique, intéressée, se penchait en avant en tenant sa godille pour mieux l'écouter.
Il entendait par là,
reprit Aîné,
une communion sensuelle avec la nature. Exactement le genre de sentiment que tu décrivais tout à l'heure, Roll.
Je me frottais la joue à l'endroit où ma barbe avait poussé le plus. Encore quelques jours sans me raser, et je serais véritablement barbu. Je pris une gorgée de café tandis que la fillette poursuivait.
Il rangeait la poésie, la musique et la peinture au nombre des éléments constitutifs de cette communion avec la nature. C'est une manière non infaillible mais humaine d'être en résonance avec l'univers. La nature nous a dotés de cette énergie de création. Pour papa, l'imagination et la vérité étaient une seule et unique chose. Il a un jour écrit que l'imagination peut être comparée au rêve d'Adam. À son réveil, c'était devenu la réalité.
« Je ne suis pas sûr de très bien comprendre, » lui dis-je. « Cela signifie-t-il que la fiction dépasse la vérité ?» Elle secoua la tête.
« Non. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est... Par exemple, dans le même poème, il y a un hymne à Pan, redoutable gardien qui ouvre les mystérieuses portes du savoir universel. »
Aîné souffla sur sa tasse de thé brûlant pour refroidir le liquide.
Pour papa, Pan était devenu une sorte de symbole de l'imagination, particulièrement de l'imagination romantique.
Elle but une gorgée.
Savais-tu, Roll, que Pan était le précurseur allégorique du Christ ?
Je battis des paupières. C'était la même enfant qui m'avait demandé, deux nuits plus tôt, de lui raconter des histoires de fantômes.
« Du Christ ? » répétai-je.
J'étais suffisamment un produit de mon temps pour scier devant ce qui pouvait apparaître comme un blasphème. Ayant fini de boire son thé, elle leva les yeux vers les lunes, le bras gauche autour du genou droit.
« Pour papa ? »
reprit-elle.
« Certaines personnes, mais pas toutes, étaient poussées par leur instinct de communion avec la nature à réagir devant cette imagination élémentale digne du vieux Pan. Demeure pour nous la retraite inimaginable des pensées solitaires, celles qui esquivent la connaissance jusqu'aux confins du ciel, puis abandonnent une tête vide, soit encore le levain qui, se disséminant en cette terre morne et lourde, la rend spirituelle et légère, lui donne une vie nouvelle, soit toujours symbole de l'immensité, firmament qui réfléchit la mer, élément qui remplit les intervalles de l'espace, inconnu.
Nous demeurâmes tous silencieux un bon moment après cette récitation. J'avais passé toute mon enfance à écouter de la poésie, de solides épopées de bergers, les cantos du vieux poète, l'épopée de Garden avec les jeunes Tycho et Gly et le centaure Roll, etc. J'avais l'habitude des vers sous un ciel étoilé. Cependant, la plupart des poèmes que j'avais entendus, appris par cœur et aimés, étaient plus faciles à comprendre que celui-là. Au bout d'un moment de silence uniquement troublé par le bruit des vagues contre le radeau et celui du vent sur notre tente, je murmurai.
« C'était ça, le bonheur pour ton père ?»
Elle rejeta la tête en arrière de sorte que ses cheveux volèrent au vent.
« Oh non !»
dit-elle.
« Ce n'était que le premier stade de bonheur de son thermomètre du plaisir. Il y avait ensuite deux autres stades.
Lesquels ?» demanda Abétic. La voix douce de l'androïde me fit presque sursauter. J'avais oublié qu'il était sur le radeau avec nous. Aîné ferma les yeux et se mit de nouveau à parler d'une voix musicale exempte de l'intonation chantante de ceux qui gâchent la poésie.
Mais il est de plus magnifiques engagements des esclavages encore bien mieux destructeurs du moi et qui, peu à peu, conduisent à l'extase souveraine. Voyez-en la couronne, elle est faite d'amour et d'amitié, elle est posée très haut sur le front de l'humanité.
Je levai les yeux vers les tempêtes de poussière et les éclairs volcaniques à la surface de la lune géante. Les nuages couleur sépia voilaient les reliefs orange et ocre.
« C'est ça les autres stades ? »
demandai-je un peu déçu. « D'abord la nature, ensuite l'amour et l'amitié ?»«
Pas exactement, »
me dit Aîné.
Papa pensait que la vraie amitié entre humains se situait à un niveau encore plus élevé que notre sentiment de communion avec la nature, mais que le plus haut de tous était l'amour.
Je hochai la tête.
« C'est ce que nous enseigne l'Église, » murmurai-je. « L'amour du Christ, l'amour de ses semblables. »
« Pas tout à fait, »
me dit Aîné.
« Papa voulait parler de l'amour physique, de l'érotisme et de la sexualité. »
Elle ferma de nouveau les yeux.
Ayant goûté au tréfonds de son âme, je trouve sans profondeur les autres cavités. Les essences, jadis spirituelles, sont des limons boueux aptes uniquement à fertiliser mes racines terrestres et à dresser mes branches chargées d'un fruit doré vers la splendeur du ciel.
J'avoue que je ne sus quoi répliquer à cela. Je remuai le fond de café qui restait dans ma tasse, me raclai la gorge, étudiai de nouveau pendant un bon moment les lunes en mouvement et la Voie lactée encore visible, puis déclarai.
Et alors?
Tu crois qu'il avait une idée derrière la tête? Je regrettai aussitôt d'avoir dit ça.
Ce n'était qu'une enfant.
Elle pouvait réciter par cœur de vieux vers,
de la pornographie même, sans pour autant comprendre de quoi elle parlait.
Elle tourna ses grands yeux vers moi. Le clair de lune les rendait encore plus lumineux.
« Je crois qu'il y a plus de niveaux dans le ciel et sur la terre, Horatio, que la philosophie de mon père n'en avait rêvé, »
me dit-elle.
« Je vois, » répondis-je gravement.
« Qui sait cet Horatio encore ?»«
Mon père était très jeune quand il a écrit ça, »
me dit Aîné.
C'était son premier poème, et ce fut un bide. Ce qu'il voulait pour son héros pastoral, c'était qu'il apprenne à quel point ces choses-là pouvaient relever de la plus pure exaltation. La poésie, la nature, la sagesse, la voix des amis, les actions d'éclat, la gloire de certains lieux exotiques, le charme du sexe opposé. Mais il s'est arrêté avant d'avoir pu accéder à l'essence authentique.
Quelle essence authentique ? Demandai-je tandis que notre radeau montait et descendait au rythme de la respiration de l'océan.
La signification profonde de chaque mouvement. Toutes formes et substances, droit chez elles au cœur de leur essence symbole.
Pourquoi ces mots m'étaient-ils si familiers? Il me fallut un bon moment pour me le rappeler tandis que le radeau voguait à travers la nuit de Mare Infinitus. Une nouvelle fois, les soleils se levèrent après quelques heures de repos et nous prîmes notre petit déjeuner. Je m'occupai ensuite de régler les viseurs de nos armes. C'était bien beau de philosopher et de faire de la poésie au clair de lune, mais disposer d'armes qui tiraient juste et droit était une nécessité plus urgente. Je n'avais pas eu le temps d'essayer nos armes à bord du vaisseau, ni après notre accident sur le monde de la jungle. Avoir avec nous des armes non réglées, jamais testées, me rendait nerveux. Durant la courte période où j'avais servi dans la garde nationale et durant les années plus longues où j'avais travaillé comme guide, j'avais découvert qu'il était aussi important, et probablement plus vital, de posséder une arme que l'on connaissait bien, plutôt qu'une arme sophistiquée. La plus grosse lune était toujours dans le ciel lorsque les soleils se levèrent. D'abord le plus petit du système binaire, qui formait un disque brillant dans le ciel, faisant pâlir la voie lactée au point de la rendre invisible, et estompant les détails de la grosse lune, puis l'étoile primaire, plus petite que celle d'Hyperion, de type Sol, mais dotée d'un éclat très intense. Le ciel prit une coloration bleu outre-mer, puis bleu cobalt. Les deux étoiles et la lune orangée occupaient tout l'horizon derrière nous. La lumière solaire rendait floue la surface de la lune, dont les reliefs étaient devenus indiscernables. Peu à peu, l'air du jour devint plus chaud, puis torride. La mer grossissait à vue d'œil. Des vagues de 2 mètres secouaient le radeau, mais se succédaient à intervalles suffisamment espacés pour ne pas nous incommoder outre mesure. Comme le guide l'avait promis, l'eau était d'un violet déroutant, couronné par la crête des vagues d'un bleu foncé presque noir, occasionnellement brisé par des bancs flottants de varech jaune ou par l'écume d'un violet encore plus intense. Le radeau continuait de voguer en direction de l'horizon, là où les lunes et les soleils avaient surgi. Pour nous, c'était l'Est, et nous ne pouvions qu'espérer que les courants nous conduisaient quelque part. S'il nous arrivait de douter de leur réalité, nous laissions traîner un filin ou nous jetions par-dessus bord quelques débris flottants pour le voir tirailler entre le courant et le vent. Les vagues étaient orientées dans le sens nord-sud, et notre cap à l'Est ne variait pas. Je sortis d'abord mon 45. Je tirai un coup en l'air pour voir si les balles étaient bien en place dans le magasin. J'avais peur que le système archaïque consistant à séparer les munitions de la structure du magasin ne me fasse oublier de recharger en un moment critique. Nous n'avions pas grand-chose à lancer en l'air pour nous exercer au tir, mais j'avais quelques emballages de rations alimentaires vides à mes pieds. J'en lançai une et attendis qu'elle ait dérivé dans l'air d'une 15 mètres avant de tirer. L'automatique fit un bruit incongru lorsque la balle partit. Je savais que ces archaïques lanceurs de projectiles étaient bruyants, j'avais eu l'occasion d'en utiliser à l'entraînement, car les rebelles des crocs de glace s'en servaient souvent, mais la détonation fut si forte qu'elle me fit presque lâcher le pistolet dans la mer violette. Elle fit sursauter Aîné, qui contemplait l'horizon au sud, perdu dans ses pensées, et troubla même l'androïde autrement imperturbable. « Désolé,
leur dis-je. Tenant le gros automatique à deux mains, je tirai de nouveau. Après avoir gaspillé deux précieux chargeurs, j'acquis la certitude de pouvoir toucher une cible à 15 mètres. Au-delà de cette distance, il ne me restait plus qu'à espérer que mon objectif aurait des oreilles et que le fracas de la détonation suffirait à le faire fuir. Tout en ouvrant l'arme après avoir tiré, je fis remarquer à mes compagnons qu'elle pouvait très bien avoir appartenu à Brown Lamia. Aîné se pencha pour la regarder.
« Je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais vu ma mère avec une arme à la main. »
Elle l'a peut-être prêtée au consul quand il est retourné dans le Retz avec le vaisseau, suggérai-je en nettoyant le pistolet ouvert.
« Non, »
fit Abétik. Je me retournai pour le regarder. Il était appuyé contre la godille. « Pourquoi non ?» demandai-je. « J'ai vu l'arme de Ashlamia quand elle était sur le Bénarès. C'était une arme ancienne, qui avait appartenu à son père, je pense, mais avec une crosse de nacre et un viseur laser. De plus, elle était adaptée pour recevoir des chargeurs à fléchettes.
« Ah !»«
Bon, » murmurai-je. Tant pis pour mon idée première que j'avais trouvée séduisante. « En tout cas, » repris-je, « celui-là a été bien conservé et nettoyé. Il avait dû rester dans une sorte de boîte à stase. Autrement, il était impossible qu'un pistolet vieux de 10 siècles fonctionne encore. À moins que ce ne soit une reproduction pour collectionneur que le consul aurait déniché au cours de l'un de ses voyages. Cela n'avait pas beaucoup d'importance naturellement, mais j'avais toujours été frappé par l'aspect historique, en quelque sorte, qui semblait émaner des vieilles armes. Je tirai ensuite avec le pistolet à fléchette. Un seul coup me suffit pour m'assurer qu'il fonctionnait parfaitement, merci. L'emballage de rations flottant vola en éclats de mousse levée 30 mètres plus loin. La crête de vague tout entière se stria et s'irisa comme si une pluie d'acier la bombardait. Les armes à fléchettes étaient sournoises, rataient difficilement leur cible et ne lui laissaient généralement aucune chance. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais choisi celle-là. Je mis la sûreté et replaçai le pistolet dans mon paquetage. Le fusil à plasma était plus difficile à régler. La mire optique à cran permettait théoriquement d'ajuster n'importe quelle cible, de l'emballage de rations qui flottait à 30 mètres de là, jusqu'à l'horizon à 25 km environ. Mais si j'atteignis la ration du premier coup, il était difficile de dire si j'aurais la même précision avec des tirs plus longs. Il n'y avait absolument rien à ces distances sur quoi tirer. En théorie, ces armes pulsantes pouvaient toucher tout ce qui était visible, sans aucune correction nécessaire pour la vitesse du vent ou la balistique, et je pus constater dans le viseur que le rayon perçait une trouée dans les nuages 20 km plus loin. Mais ce n'était pas comme si j'avais atteint une cible. Je braquai le fusil en direction de la lune géante qui se couchait maintenant derrière nous. Dans le viseur, j'aperçus indistinctement des sommets montagneux couronnés de blanc, probablement du CO2 gelé plutôt que de la neige, et pressai la détente, histoire de m'amuser un peu. L'arme était particulièrement silencieuse comparée au pistolet semi-automatique à projectile. Elle ne laissait entendre qu'un crachotement de chat quand on tirait avec. La mire n'était pas assez puissante pour laisser voir ce que l'on avait atteint, et la rotation des deux mondes, à cette distance, devait poser de sérieux problèmes, mais il aurait été surprenant que je n'aie pas touché la montagne. Les casernements de la garde nationale bourdonnaient d'histoires de gardes suisses qui avaient décimé des commandos extro en tirant dessus à des milliers de kilomètres sur un astéroïde ou un endroit comme ça. Le problème, depuis des millénaires, avait toujours été le même. Apercevoir l'ennemi d'abord. C'est en pensant à cela, après avoir tiré une fois avec le fusil et après l'avoir nettoyé puis rangé avec les autres, que je dis à mes compagnons. Il faudra faire une petite reconnaissance aujourd'hui.
Tu as peur qu'il n'y ait pas d'autre portail ?
Me demanda Aîné. Je haussai les épaules. D'après le guide, il aurait dû être à 5 km du précédent. Nous en avons parcouru au moins une centaine depuis la nuit dernière, sans doute davantage.
On prend le tapis au King ?
Demanda Aîné. Les rayons des deux soleils brûlaient sa peau diaphane.
Je crois que je préfère la ceinture de vol cette fois-ci.
Moins de profil radar si jamais quelqu'un nous observe, me disais-je, mais je gardais ma réflexion pour moi. « Et tu n'es pas du voyage, ma petite, » ajoutai-je tout haut. « J'y vais tout seul. » Je sortis la ceinture, m'y harnachai solidement, pris le fusil à plasma et activai la commande manuelle.
« Merde !» murmurai-je.
La ceinture ne faisait aucun effort pour me soulever. Un instant, je me dis que nous devions être sur un monde du même genre qu'Hyperion, avec des champs EM complètement erratiques, mais mon regard se posa sur l'indicateur de charge. Il était vide, complètement épuisé.
« Merde !» répétai-je.
Je me débarrassai du harnais et nous nous penchâmes tous les trois sur la machine inutilisable pour vérifier les circuits, la batterie et l'unité de vol.
« Elle était chargée à bloc quand nous avons quitté le vaisseau, » déclarai-je. « Nous l'avons vérifiée en même temps que le tapis Hawking. »
Abétique voulut lancer un programme d'autodiagnostic, mais la ceinture était trop à plat pour qu'il fonctionne. « Votre persoc doit avoir le même sous-programme, » me fit remarquer Abétique.
« Vous croyez ?» demandai-je stupidement.
« Vous permettez ?» fit l'androïde en indiquant le bracelet. Je l'ôtai pour le lui donner. Abétique ouvrit un petit logement que je n'avais même pas remarqué, en retira une fiche minuscule au bout d'un microfilament et l'inséra dans la ceinture. Des lumières clignotèrent. « Cette ceinture de vol est endommagée, » annonça la voix fluette du persoc. « La batterie s'est déchargée il y a environ 27 heures. Je pense qu'il s'agit d'une défaillance des cellules de stockage.
« Bravo !» m'écriai-je. « Et c'est réparable ?» La batterie tiendra la charge si nous trouvons un autre chargeur ?
Pas celle-là, fit le persoc, mais il y a 3 unités de rechange dans le compartiment AEV du vaisseau.
Bravo !
Répétai-je. Je soulevai la lourde ceinture avec son harnachement et balançai le tout par-dessus bord. Elle sombra dans les vagues violettes sans laisser de traces.
Paré de mon côté !
Fille aînée, déjà assise en tailleur sur le tapis Hawking qui flottait à 20 cm au-dessus du radeau.
« Tu veux m'accompagner ?»
Je ne discutais pas. Je m'assis les jambes croisées derrière elle et la regardais manipuler les fils de vol. À 5000 mètres d'altitude environ, haletant pour respirer un peu d'air, penché par-dessus bord pour essayer de voir quelque chose, nous avions bien plus peur que sur le radeau. La mer violette était vaste et vide. Notre esquif n'était qu'un point perdu dans l'immensité, minuscule rectangle noir, à la surface de la mer quadrillée. De l'altitude où nous étions, les vagues qui paraissaient si menaçantes vues du radeau étaient totalement invisibles.
J'ai l'impression que nous avons découvert un nouveau stade de cette communion d'essence avec la nature dont parlait ton père, déclarai-je.
Et c'est quoi ?
Aînée frissonnait dans l'air glacé du courant atmosphérique qui nous portait. Elle n'avait sur elle que le tricot de peau et la veste qu'elle portait sur le radeau.
« Le trouillomètre à zéro, » murmurai-je.
Elle se mit à rire. Je dois dire que j'adorais son rire, et sa seule pensée me fait chaud au cœur encore aujourd'hui. C'était un rire doux, mais chaleureux, naturel et mélodieux à l'extrême. Il me manque énormément.
Nous aurions dû laisser Abétique venir ici à notre place, murmurai-je. Et pourquoi ?
Parce qu'il l'a déjà fait à très haute altitude. De toute évidence, il n'a pas besoin de respirer, et il est insensible aux petits détails qui nous empoisonnent la vie, comme les problèmes de dépressurisation.
Aînée se colla à moi en arrière. Il n'est pas insensible à ces choses, me dit-elle. Simplement, il est conçu pour être un peu plus résistant que nous. Sa peau peut faire office pendant une période de temps limitée, de combinaison pressurisée, même dans des conditions de vide poussée. Il retient sa respiration plus longtemps que nous, c'est tout.
Je lui jetai un regard curieux.
Tu t'y connais beaucoup en androïde ?
Non, je lui ai simplement posé quelques questions.
Elle se pencha légèrement en avant pour manipuler les fils de vol. Nous obliquâmes vers ce que nous appelions l'Est. J'avoue que j'étais terrifié à la pensée de perdre le contact avec le radeau et de tourner au-dessus de cet océan planétaire jusqu'à ce que notre tapis perde entièrement sa charge et que nous tombions comme une pierre dans la mer, probablement pour nous faire dévorer par un gueule de lampe.
J'avais programmé mon compas inertiel en prenant le radeau comme point de référence, et à moins de le laisser tomber dans le vide, chose peu probable dans la mesure où je le portais autour du cou, attaché à un cordon, nous n'avions aucun souci à nous faire pour trouver le chemin du retour, mais cela ne m'empêchait pas de m'inquiéter.
« Ne nous éloignons pas trop !»
dis-je à Aînée.
« D'accord !»
Elle n'allait pas particulièrement vite. Elle ne dépassait pas 60 ou 70 km à l'heure, je pense, et nous étions redescendus à une altitude où nous pouvions respirer plus librement et où l'air n'était pas aussi froid. Au-dessous de nous, la mer violette demeurait totalement déserte jusqu'à son horizon circulaire.
« Tes distrances t'ont joué un tour, semble-t-il »
lui dis-je.
« Pourquoi les appelles-tu mes distrances, Roll ?»«
Parce que c'est toi qu'ils reconnaissent ?»
Elle ne répondit pas.
« Sérieusement, aînée, crois-tu que les mondes où ils nous envoient aient vraiment un sens ?»
Elle me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
« Oui, Roll, je le crois. »
J'attendis. Les champs de déflexion à cette allure fonctionnaient au minimum, de sorte que le vent me soufflait les cheveux de l'enfant dans la figure.
« Tu sais beaucoup de choses sur le Retz ?»
me demanda-t-elle.
« Et sur les distances ?»
Je haussai les épaules, puis voyant qu'elle ne me regardait plus, je lui criai.
« Ils étaient gérés par les IA du technocentre. D'après l'Église comme d'après les cantos de ton oncle Martin, les distances représentaient une sorte de complot des IA visant à utiliser le cerveau humain, ou ses neurones, comme une sorte d'ordinateur géant à base d'ADN. Ils nous parasitaient chaque fois qu'un humain transitait par un portail, c'est bien ça ?»«
Oui !»
fit Aînée.
« Donc, chaque fois que nous passons par un de ces portails, les IA, où qu'elles soient, se collent à notre cerveau comme de gros sticks gorgés de sang, pas vrai ?»«
Faux !»
me dit la fillette en pivotant de nouveau vers moi.
« Tous les relais distants n'ont pas été construits ou mis en place par les mêmes éléments du technocentre. Les cantos achevés par mon oncle Martin ne parlent donc pas de la guerre civile dans le centre tel que mon père l'a découverte ?»«
Ils en parlent !»
répliquai-je. Fermant les yeux, j'essayais de me rappeler les vers du récit mémorisé dans ma jeunesse. C'était à moi de déclamer. « Dans les cantos, murmurai-je, il y a une sorte de personnalité IA à laquelle le cybride Kit s'adresse dans la mégasphère de l'infoespace. »«
Humon, c'était son nom. Ma mère a voyagé un jour là-bas avec mon père. Et c'est mon oncle, le second cybride Kit, qui a finalement affronté Humon. Continue.
« Pourquoi ? » demandai-je. « Tu dois savoir tout ça mieux que moi ?»«
Pas du tout. Oncle Martin n'avait pas repris le travail sur ses cantos quand je vivais avec lui. Il disait qu'il n'avait pas l'intention de les achever. Dis-moi comment il raconte ce que disait Humon de la guerre civile dans le centre. »
Je fermai de nouveau les yeux. Deux siècles durant, nous avons ruminé cela. Puis les deux groupes se sont séparés, chacun de son côté. Les stables qui voulaient préserver la symbiose, les volages qui voulaient mettre fin à l'humanité, les ultimistes qui ajournèrent leur choix jusqu'à l'apparition du niveau ultérieur de conscience. Le conflit faisait déjà rage entre eux, la guerre véritable fait rage aujourd'hui.
Pour toi, cela remonte à au moins 270 années standard,
murmura Aînée.
C'est-à-dire juste avant la chute.
C'est exact. J'ouvris les yeux et scrutai l'océan à la recherche d'autre chose que les vagues violettes.
Le poème de l'oncle Martin expliquait-il les motivations des stables, des ultimistes et des volages ?
Plus ou moins, répliquai-je, mais ce n'est pas toujours facile à suivre. Dans le poème, Humon et les autres IA du centre s'expriment en Koan Zen. Aînée hocha la tête.
C'est une bonne chose,
dit-elle.
D'après les cantos, le groupe d'IA du centre, connu sous le nom de Stable, voulait continuer de parasiter notre cerveau humain lorsque nous utilisions le Retz. Les volages voulaient nous annihiler, et les ultimistes, à mon avis, s'en fichaient complètement du moment qu'ils pouvaient continuer à travailler à l'évolution de leur propre dieu mécanique.
Comment l'appelait-il déjà ?
L'IU,
répondit Aînée, ralentissant le tapis et perdant un peu d'altitude.
L'intelligence ultime.
C'est ça. Plutôt ésotérique comme truc. Est-ce qu'il y a un rapport avec notre passage à travers ces portails distance ?
si jamais nous en découvrons un autre ?
Au moment où je prononçais ces mots, je doutais sérieusement que cela se réalise. Ce monde était trop grand, l'océan trop vaste. Même si le courant poussait notre petit radeau dans la bonne direction, les chances de tomber juste dans le cercle d'une centaine de mètres du prochain portail me semblaient dérisoires.
Tous les relais distants n'ont pas été créés et entretenus par les stables pour être... Comment disais-tu ? De gros sticks gorgés de sang et collés au cerveau ?
D'accord. Qui d'autre les a créés ?
Ceux du fleuve Tétis ont été conçus par les ultimistes. Il s'agissait d'une sorte d'expérience. Je pense que tu appellerais ça comme ça, avec l'espace qui lie. C'est l'expression du centre. L'oncle Martin ne l'utilisait pas dans les Cantos ?
Oui, répondis-je. Nous étions maintenant assez bas, à moins de 1000 mètres au-dessus des vagues. Mais ni le radeau ni rien d'autre n'était en vue.
Retournons, proposai-je.
D'accord.
Nous consultâmes notre compas et réglâmes le cap sur le bercail, si toutefois un radeau bancal peut être appelé ainsi.
Je n'ai jamais réussi à comprendre ce que c'était au juste que cet espace qui lie, murmurai-je.
Sans doute une sorte d'hyperespace utilisé par les portails et par le centre pour se cacher en attendant de nous tomber dessus. Ça, ça va. Mais je pensais que tout avait été détruit quand Maynard Gladstone a tout fait bombarder.
On ne peut pas détruire l'espace qui lie,
me dit Aînée d'une voix lointaine, comme si elle était en train de penser à autre chose.
Comment l'oncle Martin le décrivait-il ?
Le temps de Planck et la longueur de Planck, répliquai-je. Je ne me souviens pas exactement. Quelque chose qui combinait les trois constantes fondamentales de la physique. La gravité, la constante de Planck et la vitesse de la lumière. Je me rappelle que cela donnait de minuscules unités de longueur et de temps.
Environ 10 exposant moins 35 mètres pour la longueur,
déclara la fillette en accélérant légèrement le tapis,
et 10 exposant moins 43 secondes pour le temps.
Ça ne me dit pas grand-chose. Tout ce que je comprends, c'est que c'est foutrement petit et court, si tu me passes l'expression.
« Je tape sous !»
me dit-elle tandis que nous reprenions peu à peu de l'altitude.
Mais ce n'était pas la durée ni la longueur qui comptait. C'était la texture qu'elle tissait, l'espace qui lie. C'est ce que mon père a essayé de m'expliquer avant ma naissance.
Je tiquais légèrement en entendant cette expression, mais la laissais continuer.
« Je suppose que tu sais ce que c'est qu'une infosphère planétaire »
reprit-elle. « Oui, déclarai-je en tapotant mon persoc. Mais d'après ce bidule, il n'y en a pas sur Mare Infinitus. »«
C'est exact. Pourtant, la plupart des mondes du Red s'en possédaient une, et les infosphères formaient la mégasphère. »«
Le médium distance, l'espace machin truc, était là pour relier les infosphères, c'est bien ça ?» demandai-je. « La force, le gouvernement électronique de l'hégémonie, la pangermie et tout le reste se servaient de la mégasphère comme des distances pour assurer leur liaison.
« Ouais !»
fit Aînée.
« La mégasphère, en fait, n'existait qu'en tant que sous-catégorie de l'espace distance.
« Je ne savais pas cela, » lui dis-je. Le médium mégatrans n'existait pas de mon vivant, en réalité.
« Te souviens-tu du dernier message distrans qui est passé juste avant la chute ?»
me demanda l'enfant.
« Ouais, »
murmurai-je en fermant les yeux. Les vers du poème ne me revinrent pas en mémoire cette fois-ci. J'avais toujours trouvé trop vague la fin des cantos pour en mémoriser les strophes, malgré l'entraînement acquis au contact de grande âme.
C'était une sorte de mystérieux message du centre, murmurai-je. Quelque chose comme « libérer la ligne, vous embouteillez le réseau ».
Le message,
fit Aînée,
disait exactement ceci. Il ne devra plus y avoir de nouvelle utilisation abusive de ce canal. Vous gênez ceux qui l'utilisent pour des motifs sérieux. L'autorisation d'accès vous sera restituée quand vous aurez compris à quoi il sert.
Ce sont les termes des Cantos, approuvai-je. Juste après, le support hypercorde a cessé de fonctionner. Le centre a émis son message et les distances ont été coupées.
Le centre n'a émis aucun message,
me dit Aînée.
Je me souviens du lent frisson qui s'empara de moi en entendant ces mots, malgré la chaleur des deux soleils.
« Tu crois ?» demandai-je stupidement.
« Qui l'a émis alors ?»«
Question judicieuse. Quand mon père parlait de la métasphère, cet infoplan plus vaste censé être en contact avec l'espace qui lit, il disait toujours qu'il était rempli de lions, de tigres et d'ours.
Des lions, des tigres et des ours, répétai-je.
C'étaient des animaux de l'ancienne Terre, et je ne pense pas qu'aucun d'eux soit arrivé jusqu'à l'Égir. Aucun n'était encore là pour faire le voyage, pas même sous forme d'ADN en conserve, lorsque l'ancienne Terre s'était engloutie dans son trou noir après la grande erreur de 08. Fille aînée.
J'aimerais faire leur connaissance un de ces jours. On y est.
Je regardais par-dessus son épaule. Nous étions à présent à un millier de mètres au-dessus de la mer. Le radeau, bien visible, paraissait minuscule. Abétic se tenait à la godille, de nouveau en bras de chemise, sous la chaleur de midi. Il nous salua en agitant son bras bleu. Nous lui rendîmes son salut.
J'espère qu'il y aura quelque chose de bon à manger,
me dit Aîné. Sinon, on ira faire un tour chez Gus au grill room océanique. Aîné se mit à rire et piqua sur le radeau. La nuit venait de tomber et les lunes ne s'étaient pas encore levées lorsque nous vîmes clignoter les lumières à l'horizon, à l'est. Nous nous précipitâmes à l'avant du radeau pour essayer de savoir ce que c'était. Aîné prit les jumelles, Abétic les lunettes de vision nocturne avec leur amplification réglée au maximum, et moi le fusil avec son viseur.
Ce n'est pas l'arche,
fit Aîné.
C'est une plateforme au milieu de l'océan. Elle est énorme. Et monter sur des pieds ou un truc comme ça.
En tout cas, j'aperçois l'arche, annonça l'androïde, fixant un point situé à plusieurs degrés au nord des lumières clignotantes. Aîné et moi nous regardâmes dans sa direction. L'arche était tout juste visible sous la forme d'une corde d'espace négatif ressortant sur le fond de la Voie lactée au-dessus de l'horizon. La plateforme, avec ses balises clignotantes destinées à l'atterrissage des engins aériens et ses fenêtres éclairées de l'intérieur, était plus proche de plusieurs kilomètres. Elle nous barrait la route du portail.
« Zut !» m'exclamai-je. « Je me demande de quoi il peut bien s'agir. »«
Chez Gus, tu crois ?»
me demanda Aîné. Je soupirai.
« Si c'est le cas, il y a eu un changement de propriétaire. »
Les touristes se sont fait plutôt rares sur le Tétis ces deux derniers siècles. J'étudiais attentivement la plateforme à travers le viseur du fusil.
Il y a plusieurs niveaux, dis-je à mes compagnons, avec pas mal de bateaux amarrés.
Des bateaux de pêche, on dirait. Je vois aussi une aire réservée aux glisseurs et autres engins aériens, avec deux ornies attachées un peu plus loin.
Qu'est-ce que c'est qu'un ornie ?
Demanda Aîné en abaissant ses jumelles. Ce fut Abétic qui répondit. C'est une forme d'engin volant avec des ailes mobiles, comme un insecte à chaîner. Ils étaient très populaires à l'époque de l'hégémonie, bien que plutôt rares sur Hyperion. Je crois qu'on les appelait aussi des libellules.
On les appelle toujours ainsi, déclarai-je.
La Pax en avait quelques-unes sur Hyperion.
J'en ai vu une un jour sur le glacier d'Ursus.
Je portais de nouveau le viseur à mon œil. J'aperçus les verrières, comme des yeux, à l'avant de la libellule, illuminées par une fenêtre éclairée.
« Ce sont bien des ornies, » déclarai-je.
« Je crois que nous allons avoir du mal à dépasser cette plateforme pour arriver jusqu'à l'arche sans nous faire repérer, »
nous dit Abétic.
« Vite, »
murmurai-je, en tournant le dos aux lumières clignotantes. « Démontons la tente et le mât. » Nous avions réinstallé la micro-toile de manière à former une sorte de mur à bris sur tribord arrière, pour des raisons sanitaires qu'il n'est pas nécessaire de développer ici. Mais nous eûmes vite fait d'abattre la tente et de la réduire à une petite boule de la taille de ma main. Pendant ce temps, Abétic couchait le mât à l'avant.
« Et la godille ?» me demanda-t-il.
Je me tournai une seconde vers l'arrière.
« Ah, laissez-la. » Elle n'a pas de surface équivalente radar très importante, et elle n'est pas plus haute que nous.
Aîné étudiait de nouveau la plateforme avec ses jumelles.
« Je ne crois pas qu'il puisse nous détecter pour le moment, »
dit-elle.
« Nous sommes cachés par les creux de la houle la plupart du temps. Mais quand nous serons plus près... »«
Et que les lunes se lèveront, » ajoutai-je.
Abétic vint s'asseoir à côté de nous devant le foyer.
Si nous pouvions décrire une large courbe pour arriver au portail, commença-t-il.
Je me grattais la joue, faisant crisser ma barbe de plusieurs jours.
J'y ai pensé, murmurai-je.
J'aurais pu utiliser la ceinture de vol pour remorquer le radeau, mais...
Il y a le tapis Hawking,
fit Aîné en se rapprochant du cube de chauffage. La plateforme surélevée, sans la tente, paraissait bien nue.
Comment fixer un câble de remorque, demandai-je.
En brûlant le tissu pour y faire un trou?
Ainsi seulement nous avions un harnais, murmura l'androïde.
Nous en avions un beau avec la ceinture de vol, mais je l'ai donné à manger au Léviathan gueule de lampe.
On pourrait en fabriquer un autre, proposa l'homme bleu, et passer le câble autour des épaules de la personne qui pilotera le tapis.
C'est possible, mais il offrira alors un écho maximal.
Si cette plateforme peut recevoir des glisseurs et des ornies, elle dispose nécessairement d'un système de contrôle aérien et de détection, même rudimentaire.
Nous pourrions rester au ras des vagues,
suggéra Aîné.
Pas beaucoup plus haut que le radeau?
Je me grattais le menton. On pourrait essayer, c'est vrai, reconnus-je. Mais si nous faisons un détour suffisant pour demeurer hors de vue de la plateforme, nous n'arriverons devant le portail que bien après le lever des lunes. Et d'ailleurs, même si nous foncions droit dessus dès maintenant, avec ce courant, nous n'arriverions pas avant. Il ne manquerait pas de nous apercevoir avec toute cette lumière. De toute manière, le portail est à moins d'un kilomètre de la plateforme, et celle-ci est assez haute pour qu'il nous voie quand nous nous en approcherons.
Rien n'indique qu'il nous recherche,
déclara la fillette. Je hochai la tête. L'image du prêtre capitaine qui nous avait attendus dans les systèmes de Parvati et de Renaissance ne me quittait jamais longtemps, avec son col romain sur l'uniforme noir de la Pax. Je m'attendais à moitié à le voir apparaître sur cette plateforme, entouré de gardes du Vatican.
L'important n'est pas là, murmurai-je. À supposer qu'il veuille nous secourir, avons-nous une histoire plausible à leur raconter?
Aîné sourit.
Nous sommes sortis faire une petite croisière au clair de lune, et nous nous sommes perdus. Je crois que tu as raison, Roll. Ils nous sauveraient la vie, et nous passerions tout un an à expliquer qui nous sommes aux autorités de la Pax. Ils ne nous recherchent peut-être pas spécialement, mais si vous dites qu'ils sont établis sur cette planète...
La chose ne fait aucun doute, déclara Abétique. La Pax possède de gros intérêts sur Marine Finitus. D'après les renseignements que nous avons glanés lorsque nous nous cachions dans la ville universitaire, il est clair que l'Église s'est installée ici depuis longtemps pour restaurer l'ordre, créer des sociétés d'exploitation des produits de la mer et convertir les survivants de la chute au christianisme régénéré. Mare Infinitus était un protectorat de l'hégémonie. Aujourd'hui, c'est une dépendance de la Pax à part entière.
Mauvaise nouvelle, ça,
fit Aîné. Elle se tourna vers l'androïde, puis vers moi, pour me demander.
Tu as une idée?
Peut-être, répondis-je en me levant. Nous tenions cette conversation à voix basse, bien que nous fussions encore séparés de la plateforme par une distance de 15 kilomètres au moins.
Au lieu d'essayer de deviner qui est là et pourquoi, murmurai-je, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que j'aille y jeter un coup d'œil de plus près? Il ne s'agit peut-être que des descendants du vieux Gus et de quelques pêcheurs endormis.
Aîné renifla.
Quand nous avons aperçu ces lumières, vous savez à quoi ça m'a fait penser?
À quoi? Demandai-je.
Aux toilettes de l'oncle Martin.
Je vous demande pardon, fit l'androïde.
Aîné se frappa les genoux des deux mains.
Je vous assure. Maman me racontait que quand il était un grand écrivain connu, à l'époque du Retz, il avait une maison multiplanétaire.
Je fronçai les sourcils.
Grande dame m'en a parlé. Il y avait des portes distances pour passer d'une pièce à l'autre. Une seule maison, mais une planète pour chaque chambre.
Des douzaines de monde pour la maison d'oncle Martin, à en croire ma mère. Et il avait une salle de bain sur Mare Infinitus. Rien de plus. Juste une plateforme flottante avec des sanitaires. Pas même de mur ni de plafond.
Je scrutai l'immensité de la mer. Autant pour l'harmonie avec la nature, murmurai-je en me frappant à mon tour les cuisses. Bon, je crois que je vais y aller avant de craquer.
Personne n'essaya de me retenir ni ne proposa de prendre ma place. je me serais peut-être laissé faire dans ce dernier cas. Je mis un pantalon noir et mon sweater le plus foncé, avec par-dessus mon gilet de chasse camouflage. Je me sentais un peu ridicule. « Rentre en plan, s'en va en guerre », me soufflait la partie la plus cynique de mon esprit. Je la fis taire. Je gardais mon ceinturon avec le pistolet, ajoutais 3 détonateurs et un pain de plastique à mon équipement, glissais les lunettes de vision nocturne autour de mon cou pour les laisser pendre discrètement sur le gilet lorsque je ne les portais pas, insérais l'un des écouteurs de l'unité com dans mon oreille et collais le micro à ma gorge pour pouvoir parler en mode subvocal. Aîné prit la deuxième paire d'écouteurs et nous fîmes quelques essais. Je retirai mon persoc et le donnai à l'androïde. « Ce truc-là reflète trop la lumière stellaire, » lui dis-je. Et la voix du vaisseau pourrait se mettre à couiner des données de navigation au mauvais moment. L'androïde hocha la tête et glissa le persoc dans la poche de sa chemise. « Vous avez un plan à Chandimion ?»«
J'en improviserai un en chemin. »
Je fis grimper le tapis Hawking juste au-dessus du niveau du radeau. Puis je touchai l'épaule d'Aîné. Le contact me fit soudain l'effet d'une secousse électrique. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait entre nous. Je l'avais déjà remarqué lorsque nos mains se touchaient. Rien de sexuel, naturellement, mais la sensation n'en était pas moins électrique.
« Ne t'éloigne pas trop, »
lui chuchotai-je à l'oreille.
« Si j'ai besoin de toi, je crie. »
Elle leva vers moi ses grands yeux graves à la lumière des étoiles.
« À quoi bon, Roll ? Nous ne pourrons même pas arriver jusqu'à toi. »
« Je sais. Je plaisantais. »
« Il ne faut pas plaisanter avec ces choses, » murmura-t-elle. « N'oublie pas que si tu n'es pas avec moi sur le radeau quand il franchira le portail, nous serons séparés à jamais. »
Je hochai la tête. Cette pensée me refroidissait davantage que l'idée de me faire tuer.
« Ne t'inquiète pas. « Je reviendrai à temps, » murmurai-je.
« Je pense que le courant nous fera passer devant la plateforme dans... Qu'est-ce que vous en pensez, Abétic ?»«
Environ 1 heure à Chandimion. »
« Oui, c'est ce que j'avais calculé, moi aussi. » « Cette maudite lune devrait se lever à peu près au même moment. Je trouverai bien quelque chose pour les distraire. » Je donnai de nouveau une petite tape sur l'épaule d'Aîné, adressai un signe de tête à l'androïde, et m'éloignait au ras de l'eau sur le tapis Hawking. Malgré l'incroyable clarté des étoiles et les lunettes de vision nocturne, j'eus du mal à guider le tapis sur les quelques kilomètres qui me séparaient de la plateforme. Il me fallait rester le plus possible dans les creux de la houle, c'est-à-dire que je devais voler plus bas que la crête des vagues. La manœuvre était délicate. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passerait si j'étais obligé de couper à travers l'une de ces grosses lames écumeuses. Peut-être rien. Peut-être que les fils de vol du tapis seraient court-circuités. Je n'avais pas l'intention d'essayer de le découvrir en tout cas. La plateforme, vue de près, était énorme. Cela me changeait par rapport au radeau. Elle semblait faite d'acier et surtout de bois foncé, avec de nombreux pylônes qui la maintenaient à une quinzaine de mètres au-dessus des vagues. Cela me donnait une idée de ce que pouvaient être les tempêtes locales. Je me félicitais que nous n'en ayons pas encore essuyé. La plateforme proprement dite était à plusieurs niveaux. Tout en bas, j'aperçus des pontons, avec au moins 5 longs bateaux de pêche amarrés. Des escaliers de fer reliaient les différents niveaux et des compartiments étaient éclairés au-dessous de ce qui semblait être le pont principal. Il y avait 2 tours visibles de l'endroit où je me trouvais, l'une d'elles surmontée d'une petite antenne parabolique et 3 aires d'atterrissage dont 2 étaient demeurés complètement invisibles à partir du radeau. J'apercevais à présent au moins une demi-douzaine d'ornies avec leurs ailes de libellules repliées et 2 gros glisseurs garés sur l'aire circulaire au pied de la tour radar. J'avais imaginé un super plan en me rapprochant avec le tapis. Je voulais créer une diversion. C'était la raison pour laquelle j'avais amené les détonateurs et le plastique. C'était un explosif très faible, mais suffisant pour faire naître au moins 1 foyer d'incendie que je mettrais à profit pour voler une des libellules et m'en servir pour franchir le portail si nous étions poursuivis ou pour remorquer le radeau un peu plus vite dans le cas contraire. C'était un bon plan, mais il y avait une faille. je ne savais pas piloter un orni. Je n'avais rien vu de la sorte dans les holodrames que je suivais dans les salles de port romance ou dans les centres de loisirs de la garde nationale. Les héros de ces histoires savaient piloter tout ce qu'ils dérobaient. Glisseurs, VEM, ornis, hélicoptères, aérostats, vaisseaux spatiaux. De toute évidence, il me manquait un cours de la formation de base des héros. Si je réussissais à m'emparer d'un de ces trucs, je serais probablement encore en train de me ronger un ongle en examinant les commandes avec perplexité lorsque les hommes de la Pax m'appréhendraient. Ce devait être plus facile d'être héroïque du temps de l'hégémonie, où les machines étaient plus intelligentes, ce qui compensait la stupidité des héros. À dire la vérité, mais je n'aurais pas voulu l'avouer à mes compagnons, il n'y avait pas beaucoup d'engins que je savais conduire. Une péniche, un véhicule de sol, et encore à condition qu'il s'agisse de l'un des modèles utilisés par la garde nationale d'Hyperion. Quant aux engins atmosphériques ou spatiaux, disons que j'avais été bien content de constater que le vaisseau du consul n'avait même pas de salle de commande. M'arrachant à mes réflexions sur mes insuffisances héroïques, je me concentrais sur mon approche de la plateforme dont je n'étais plus séparé que par quelques centaines de mètres. Je voyais clairement les balises sur les tours et les aires d'atterrissage. Il y avait une lumière verte clignotante sur chaque ponton et les fenêtres éclairées étaient nombreuses. Beaucoup trop de fenêtres à mon goût. Je décidai de tenter de me poser dans le secteur le plus sombre de la plateforme, juste au pied de la tour radar, à l'est. Je décrivis avec mon tapis une large courbe au ras des vagues pour arriver dans cette direction. Lorsque je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, je m'attendais presque à voir le radeau en train de s'approcher, mais il était toujours invisible. J'espère qu'il est invisible pour eux aussi. J'entendais à présent des rires et des voix. C'étaient des voix masculines et de gros rires sonores qui me rappelaient ceux des chasseurs d'outre-monde que je guidais dans les marais bourrés d'alcool et de bonne humeur. Mais cela ressemblait aussi aux grosses brutes que j'avais connues dans la garde nationale. Je redoublais d'efforts pour raser la surface de l'eau au moment d'aborder la plateforme. « J'y suis presque », annonçai-je dans mon micro subvocal.
« D'accord »,
fit la voix d'aînée à mon oreille. Nous étions convenus qu'elle ne ferait que répondre à mes appels, à moins qu'il n'y ait une urgence de leur côté. Faisant du surplace, j'aperçus un enchevêtrement de poutres, de poutrelles, de passerelles et de coursives de mon côté, sous le pont principal. Contrairement aux escaliers brillamment éclairés des côtés nord et ouest de la plateforme, ils étaient plongés dans le noir. Ce n'étaient peut-être que des passerelles d'entretien. Je choisis l'endroit le plus bas et le plus sombre pour y poser le tapis. Je l'enroulai et le calai entre deux poutrelles en l'attachant avec la corde dont je m'étais muni. Je la coupai d'un coup sec avec mon poignard. En remettant celui-ci dans son étui, j'eus la soudaine vision d'être obligé de tuer quelqu'un avec cette arme. Je frissonnai à cette pensée. Hormis l'accident qui s'était produit lorsque Hachérig m'avait attaqué, je n'avais jamais tué personne au corps à corps. Et je priais Dieu pour que cela ne m'arrive jamais plus. Les marches craquaient sous mes pas, mais j'espérais que le bruit serait couvert par celui des vagues dans les pylônes et des rires qui descendaient du pont. Je grimpai deux volées de marche, découvris une échelle et la suivis jusqu'à une trappe. Elle n'était pas verrouillée. Je la soulevai prudemment, m'attendant à moitié à faire tomber un garde armé à la renverse. Je passai lentement la tête et vis que la trappe donnait sur un pont d'envol situé le long de la mer, au pied de la tour. 10 mètres plus haut, l'antenne radar tournait, occultant à mes yeux une partie de la Voie lactée à chaque rotation. Je me hissai sur le pont, réprimai l'instinct de marcher sur la pointe des pieds et m'avançai jusqu'au coin de la tour. 2 énormes glisseurs étaient amarrés sur le pont à cet endroit. Leur masse sombre paraissait vide. Sur les ponts d'envol inférieurs, j'apercevais les reflets des étoiles sur les ailes d'insectes des ornis. La lumière galactique faisait briller leur coupole d'observation noire. Sûr qu'on était en train de m'observer, je sentis un picotement atroce entre les omoplates, tandis que je m'avançais à découvert pour plaquer une petite boule de plastique sous le fuselage du premier engin et mettre en place un détonateur que je pourrais activer avec un code approprié de mon unité COM. Puis, je redescendis par l'échelle sur le pont des Ornies et répétai l'opération. J'étais certain que l'on m'observait de l'une des baies éclairées de la plateforme, mais personne ne donna l'alerte. Aussi nonchalamment que possible, je gravis silencieusement la passerelle qui conduisait au pont d'envol et passai la tête au coin de la tour. Un nouvel escalier descendait du module de la tour jusqu'à l'un des niveaux principaux. Les baies y étaient brillamment éclairées, uniquement voilées par des tentures, leurs volets levés. Les rires étaient très forts, accompagnés de bribes de chansons et de bruits de vaisselle. Retenant ma respiration, je descendis quelques marches, traversai le pont et pris une passerelle qui me faisait passer à quelque distance de l'entrée. Je baissai la tête pour éviter les lumières des fenêtres éclairées. Je fis un gros effort pour reprendre mon souffle et ralentir le rythme de mes battements de cœur. Si quelqu'un s'avisait de sortir maintenant sur le pont, ma retraite jusqu'au tapis serait coupée. Je tâtai la crosse de mon 45 sous mon gilet et m'efforçai d'entretenir des pensées courageuses. Mais je voulais surtout regagner le radeau le plus vite possible. J'avais mis toutes mes charges en place. Pourquoi m'attarder davantage? Ce n'était pas seulement la curiosité qui me retenait en fait. Si la plateforme n'était pas occupée par des hommes de la Pax, je n'avais pas tellement envie de faire exploser le plastique. Les rebelles que j'avais combattus sur les crocs de glace faisaient des bombes leurs armes de prédilection. Ils en posaient aussi bien dans les villages que dans les casernes de la garde nationale, dans les tracteurs des neiges, dans de petites embarcations qu'ils dirigeaient aussi bien contre les civils que contre les soldats de la garde nationale. J'avais toujours considéré cette pratique comme lâche et détestable. Les bombes étaient des armes aveugles qui tuaient sans discrimination les innocents aussi bien que les soldats ennemis. J'étais peut-être ridicule de moraliser de cette façon, mais même si je savais que mes charges de plastique ne feraient rien de plus que mettre le feu à des engins inoccupés, je n'avais pas l'intention de les faire exploser sans nécessité absolue. Ces hommes, ces femmes, probablement, et ces enfants, peut-être, ne nous avaient rien fait. Prudemment, avec une lenteur absurde et exaspérante, je passai la tête pour essayer d'apercevoir quelque chose par l'une des fenêtres. Un coup d'œil me suffit et je baissai promptement la tête. Les bruits de vaisselle venaient d'une grande cuisine bien éclairée, une cambuse plutôt, puisque nous étions, pour ainsi dire, à bord d'une sorte de navire. En tout cas, il y avait là une demi-douzaine d'occupants, tous des hommes, tous d'âge militaire, mais sans uniforme, en tablier ou en sous-vêtements, occupés à nettoyer et à ranger des piles d'assiettes et d'ustensiles de cuisine. Visiblement, j'étais arrivé trop tard pour me faire inviter à dîner. Rasant la paroi, j'allai sur la pointe des pieds jusqu'au bout de la passerelle, descendis par une autre échelle et m'arrêtai devant une nouvelle série de fenêtres. Là, dans l'ombre de la jonction de deux modules, je pouvais voir ce qui se passait de l'autre côté sans avoir à coller la tête au carreau. C'était un réfectoire ou une salle à manger. Une trentaine d'hommes, sans la moindre femme, étaient assis devant une tasse de café. Certains fumaient une cigarette recombe. L'un d'eux au moins me parut avoir devant lui un verre de whisky ou tout au moins de liquide ambré qui se trouvait dans une bouteille non loin de lui. Je l'aurais bien accompagné, quelle que fût la substance. Beaucoup de ces hommes étaient en kaki, mais j'étais incapable de dire s'il s'agissait d'un uniforme local ou de l'accoutrement traditionnel des pêcheurs sportifs. Je ne voyais aucun uniforme de la Pax, ce qui était plutôt encourageant. Cette plateforme avait peut-être été reconvertie pour la pêche ou pour accueillir de riches touristes d'outre-monde qui n'hésitaient pas à dépenser des années de déficit de temps, ou plutôt à les faire payer chez eux à leur famille et à leurs amis, pour le seul plaisir de tuer quelque chose de gros ou d'exotique. En fait, j'en connaissais peut-être quelques-uns, chasseurs de canards sur Hyperion, pêcheur ici, mais je n'avais pas l'intention d'entrer pour vérifier. Un peu plus confiant, je m'avançais sur la passerelle, exposé à la lumière des fenêtres.
il ne semblait pas y avoir de garde ni de sentinelle. Nous n'allions peut-être pas avoir besoin de diversion. Nous n'aurions qu'à passer tranquillement sur le radeau devant ces types, clair de lune ou pas clair de lune. Ils seraient tous en train de dormir, de boire ou de rire, et le courant nous emporterait droit sous le portail d'Istrance que j'apercevais maintenant à moins de 2 kilomètres au nord-est, arche sombre, à peine visible contre le ciel étoilé. Quand nous arriverions au portail, j'émettrais le signal codé qui, au lieu de faire exploser le plastique, désactiverait les détonateurs. J'étais en train de regarder le portail lorsque, au détour d'un angle, je me cognais littéralement contre un type adossé au mur. Il y en avait 2 autres penchés sur le bastingage. L'un d'eux tenait contre ses yeux des jumelles de vision nocturne qu'il braquait vers le nord. Tous les deux étaient armés.
« Hé !»
s'écria celui à qui je m'étais cogné. « Pardon !» lui dis-je. Je n'avais jamais vu une scène pareille dans un holodrame. Les 2 hommes penchés au bastingage avaient des mini-pistolets à fléchettes en bandoulière et leurs mains étaient posées dessus avec cette arrogance nonchalante commune aux militaires de toutes les époques. L'un d'eux pointa alors son arme dans ma direction. Celui que j'avais bousculé était en train d'allumer une cigarette. Il secoua l'allumette pour l'éteindre, ôta la cigarette de sa bouche et me regarda d'un air furieux.
« Qu'est-ce que vous faites sur le pont ?»
me demanda-t-il. Il était plus jeune que moi. Il devait avoir une 20aine d'années standard. Je vis qu'il portait une variante de l'uniforme des forces de la Pax au sol, avec la barrette de lieutenant que j'avais appris à saluer sur Hyperion. Son accent était prononcé, mais j'étais incapable de le situer. « Je suis sorti prendre l'air, » balbutiai-je. Une partie de moi-même se disait qu'un vrai héros aurait déjà sorti son pistolet pour faire feu, mais la partie la plus intelligente ne voulait même pas entendre parler de cette solution. L'autre soldat de la Pax avait également orienté son arme automatique vers moi, la bretelle tendue. J'entendis le déclic d'une sécurité qui se défaisait.
« Vous êtes avec le groupe Klingman ?»
me demanda-t-il avec le même accent épais.
« Où avaient les autres ?»
J'avais entendu « Où avaient les auteurs ?» J'ignorais s'il avait voulu dire « les autres »,« les outres » ou même encore « les auteurs ». J'étais peut-être tombé dans un camp de concentration maritime pour mauvais écrivains. J'essayais peut-être trop fort d'être mentalement décontracté alors que mon cœur battait si fort que j'aurais pu faire un infarctus devant eux. « Klingman, » murmurai-je en m'efforçant de rester aussi concis que possible. En ce qui concernait l'accent que j'aurais dû avoir, j'étais sûr de ne pas être dans le coup. Le lieutenant de la Pax fit un signe du pouce vers la porte qui se trouvait un peu plus loin.
« Vous connaissez le règlement ? Couvre-feu absolu à la nuit tombée !»
« Où coessez le règlement, couve aholu, à la nuit tombée ?» Je hochai la tête en m'efforçant de prendre un air contrit.
Mon gilet de chasse couvrait l'étui de mon pistolet sur la hanche. Il n'avait peut-être pas repéré l'arme.
« Venez !»
me dit le lieutenant en balançant de nouveau le pouce, mais en se tournant pour me précéder.
« Veux et ?»
Les 2 troufions avaient toujours la main sur leur pistolet à fléchette. À cette distance, s'ils me tiraient dessus, on pourrait me ramasser à la petite cuillère pour m'enterrer dans une tasse à thé. Je suivis le lieutenant sur la passerelle. Il m'ouvrit la porte et j'entrai dans la salle la plus illuminée et la plus bondée qu'il m'eût jamais été donné de voir.